Cascodeur Podcast, épisode 125. Interview sur HTTPS avec Tom Delmas. Partie 1. Enregistré le 23 mai 2015. Bonjour et bienvenue au Cascodeur épisode 125. On est le 23 mai 2015 et on va parler d'HTTPS avec Arnaud déjà.
Bonjour.
Mais surtout avec Tom Delmas. Delma ou Delmas on dit ?
Delmas.
Delmas, d'accord. Alors Arnaud, on va te laisser t'introduire aussi parce qu'il s'est passé 2-3 trucs dans ta vie, Arnaud, donc tu vas nous faire un petit résumé en audio, et puis après, on laissera Tom expliquer qui il est, qu'est-ce qu'il fait dans la vie.
Bonjour à tous. Donc, Arnaud Héritier, comme chaque mois à peu près, mais cette fois, j'ai changé effectivement d'employeur. J'ai rejoint la société CloudBees, de Sacha Labouret et pas mal d'autres personnes que vous pouvez connaître, comme Koshuke, Kawagashi et quelques autres, voilà. Donc, une belle expérience qui s'offre à moi pour connaître un peu mieux Jenkins et faire du support aux utilisateurs, voilà.
Donc, ça y est, t'as mis une ruche sur ton balcon et tu fais de l'apiculture.
Tout à fait, voilà. L'apiculture a démarré.
C'est bien, c'est bien. Bon, Tom, alors en fait, je vais expliquer comment ça s'est passé. Donc, j'ai mis en place HTTPS sur mon site perso et sur le site des Cascodeurs. Et puis, j'ai dit, si vous trouvez un truc qui marche pas, dites-le moi. Donc, j'ai échangé avec quelques personnes. Et puis, à un moment, on a fait les combats d'acronymes entre toi et, je crois, David Gageot. Et puis, après, je me suis dit, ça serait pas mal de faire un épisode qui détaille un petit peu ce que c'est HTTPS, comment ça se met en place, etc., etc. Et donc, qui tu es et pourquoi tu connais HTTPS ?
Donc, je suis Tom Delmas. Je suis diplômé de l'ENCE, une école d'ingénieurs à Évry. Et là, je travaille depuis 3 ans chez GroupCamp, une société de SaaS sur Paris.
D'accord.
Il y a à peu près 1 an, j'ai commencé vraiment à m'intéresser à ce protocole et tout ce qui l'entoure, parce que ça m'agaçait de devoir taper des lignes de commande obscures et juste que ça marche ou pas derrière, sans en comprendre les finalités. Et du coup, j'ai cherché à m'informer sur tous les tenants et aboutissants de cette technologie.
D'accord, alors moi j'en suis, je suis un peu plus que juste taper des lignes de commande pour voir si ça marche, mais donc voilà, je vais pouvoir passer à l'étape d'après. Donc on a découpé ça en 3 grands morceaux, je crois. Il y a donc d'abord pourquoi HTTPS, un petit résumé de pourquoi c'est important, ou pas d'ailleurs. Comment ça marche, un petit peu de logique, un peu de pas mal de pratico-pratiques aussi sur les différents types de certificats, ce genre de choses. Les notions de certificate authority qui est important pour comprendre la logique d'HTTP, enfin de comment ça marche la sécurisation. Et puis surtout comment on obtient un certificat, comment on le met en place sur son serveur, les petits trucs pratiques à mettre en place pour que ça marche mieux. Voilà. Alors d'abord pourquoi HTTPS pourquoi vous recommanderiez HTTPS et qu'est-ce que ça apporte aux gens selon vous ?
Arnaud, je te laisse commencer si tu préfères.
Allez, c'est parti. HTTPS, de façon aujourd'hui, c'est devenu une recommandation plus que nécessaire par beaucoup de grands organismes. On voit que Google et autres le recommandent. Et le but de HTTPS, avant tout, c'est de sécuriser la connexion entre le navigateur et le serveur. Donc, quand on tape quelque chose, que ça soit quand on émet des formulaires et quand on même reçoit les requêtes, tout ce qui navigue par défaut c'est en clair, donc n'importe qui se met entre vous et le serveur peut potentiellement récupérer vos informations sans trop de soucis. HTTPS, le but d'origine c'est de protéger la confidentialité entre le client et le serveur. Donc ça c'est le principe de base qui fait que généralement on le met en place très rapidement dès qu'on a des authentifications sur des services, puisque c'est là où on va faire passer nos credentials, et donc pour éviter que quelqu'un s'y empare, on va mettre en place HTTPS. Et aujourd'hui, avec les actualités de nos chers gouvernements et autres, qui aiment bien savoir de plus en plus ce qu'on fait dans notre vie privée, il s'en va que les gens ont tendance à de plus en plus se protéger les informations qui transitent entre eux et les serveurs qui sont partout dans le monde.
Et je trouve qu'on a beaucoup maturé ces 5-6 dernières années. Alors ça a dégénéré avec Chip, je sais pas quoi là, qui permettait de récupérer les logins Facebook à la volée sur un
Ouais.
Wi-Fi et du coup de se connecter en tant que l'autre gars sur Facebook. Donc on a appris que juste si on protégeait juste les logins, ça suffisait pas parce qu'après le token il arrivait en clair. Et je trouve qu'il y a eu plein de choses sur lesquelles on est devenu beaucoup plus mature en termes d'industrie. Et on s'est dit, maintenant, en fait, HTTPS de manière systématique, ça a plus de sens que. Alors, c'est pas forcément système. Enfin, c'est pas vrai partout, mais HTTPS de manière systématique a plus de sens que HTTP de manière systématique en rajoutant de l'HTTPS juste quand il faut. Donc, on est vraiment en train de changer la logique, en fait.
Faut voir aussi que les ressources aussi côté serveur et client ont pas mal évolué, donc ça permet aussi de mettre en place plus systématiquement l'HTTPS. Il y a encore je sais pas 5 ou 10 ans, ça consommait quand même pas mal de ressources, ces petites choses-là. Donc on se limitait là où on pouvait, là où on semblait, où ça semblait être vraiment nécessaire. Et alors qu'aujourd'hui, voilà, on est toujours dans une logique où avec le plus de puissance qu'on a, on va utiliser ça justement pour la sécurité.
Puis un autre truc, là tu parles du CPU en gros,
Ouais.
mais il y a aussi la bande passante sur laquelle ça va mieux, parce
Aussi.
que en théorie en tout cas, quand on met de l'HTTPS, on peut plus mettre de cache, de proxy, sur lequel l'Internet s'est construit quand même, puisqu'à la base on avait quand même des modems, et des fois on a l'impression qu'on a encore des modems 56K, et du coup les caches ont beaucoup aidé à ce niveau-là, donc quand on met de l'HTTPS, c'est pas impossible via des CDN, etc., en partageant les clés, mais c'est un peu plus compliqué, donc il y a un certain nombre de choses à faire. Tom, tu voulais rajouter des trucs?
Oui, effectivement. Pour rebondir sur ce que tu disais, il y a le patron d'Orange qui effectivement se plaignait l'an dernier qu'à cause d'HTTPS, il ne pouvait plus faire du cache autant qu'il le souhaitait. Mais vu la bande passante actuelle, en général, sauf pour les gros acteurs comme Netflix, ça ne pose pas de problème au niveau du réseau. Par contre, il y a un autre point sur le HTTPS. Il n'y a pas que la confidentialité des données. Il y a aussi l'intégrité des données. Qui est aussi un point important. Donc, d'une part, la confidentialité qui est soit parce que c'est une banque et donc il faut protéger les données, soit parce que ce sont des données médicales et la question ne se pose pas, soit parce que ce sont juste des données personnelles et là, la loi est extrêmement claire, on doit protéger les données personnelles. Et le problème, c'est que cette définition de données personnelles est extrêmement vaste et un blog qui juste un formulaire de commentaires où il y a une adresse email dedans. L'adresse email étant uniquement là pour recevoir les commentaires suivants et donc étant pas une donnée publique, c'est donc une donnée personnelle que le propriétaire du blog a l'obligation de protéger. Et donc il y a d'une part ce côté données personnelles à protéger, mais il y a aussi l'intégrité des données où on voit que par exemple certains FAI s'amusent à modifier les données des sites web. Ça peut être
Fournisseur
soit
d'accès à Internet, hein, pour ceux qui savent
en... Oui,
pas.
merci. Désolé. Donc, certains FAI s'amusent à modifier les données des sites web, et donc si les propriétaires des sites internet souhaitent garantir à l'utilisateur que ce qu'ils reçoivent, c'est bien ce qu'ils ont émis, l'HTTPS permet de garantir cela, et donc d'éviter de l'injection soit de publicité, comme le font certains FAI, soit de cookies, d'autres FAI américains l'ont fait. Des compagnies aériennes s'amusent aussi sur leur réseau Wi-Fi à afficher le planning de vol en haut des pages web, qui est une information extrêmement pratique, mais du point de vue du concepteur du site internet, je ne sais pas s'il est d'accord pour afficher ces informations-là. Et il y a d'autres effets un peu plus néfastes, comme par exemple sur Tor, il y a certains nœuds de sortie qui, à la volée, réécrivent les exécutables pour y insérer des virus, ce qui peut être dérangeant et peut être empêché grâce au HTTPS. Donc, il y a effectivement la côté protection des données contre le fait de voir ce qui passe, mais aussi le côté protection des données dans le sens empêcher les modifications.
D'accord. C'est marrant que tu dis ça parce qu'il y a dans HTTPS en fait il y a des, on en parlera après, mais il y a des suites d'encryption, enfin des algorithmes d'encryption différents, puis on choisit ce qu'on veut. Et il y en a un qui est pas d'encryption en fait. Et ça, ce que ça veut dire, c'est que ça va vérifier l'intégrité des données. Donc en théorie, j'imagine, alors je sais pas, mais mettons un MD5 pour vérifier que la page qui a été envoyée, c'est bien la page qu'on a reçue et qu'il n'y a personne qui a changé le contenu. Mais la page reste en clair parce qu'il n'y a pas d'encryption. Alors ce truc-là, on a trouvé des failles, donc maintenant, en général, il est désactivé parce qu'il y a les notions de downgrading, de protocole qui font que y avait des faiblesses, mais à la base HTTPS était effectivement fait aussi pour ça, de dire ben on s'en fiche que ça soit visible, mais il faut que ce qui a été envoyé est effectivement ce qui a été reçu. C'est marrant. Et puis oui, alors on va passer à deux questions d'auditeurs, quelques questions d'auditeurs sur ce sujet-là. Il y a des gens qui demandaient, là il y a Chrome et surtout la Fondation Mozilla qui a décidé de déprécier des choses en HTTP, de se focaliser sur HTTPS. Alors, c'est pas exactement ça. Ce qu'ils ont dit, c'est que les nouvelles fonctionnalités, ils allaient les faire uniquement en HTTPS et pas les supporter sur le protocole HTTP. Et c'était assez confus pour moi avant que je trouve une autre information sur HTTP2. Alors HTTP2, vous savez, c'est le nouveau protocole HTTP. Ça vient d'une expérimentation qui s'appelle Speedy chez Google. Et Speedy à la base c'était TLS, donc se sécuriser quoi qu'il arrive. Et en fait HTTP2, il y a eu des débats au sein du groupe, donc ils ont décidé de pas imposer le fait que ça soit forcément au-dessus de TLS, donc du niveau sécurisé. Par contre, il se trouve que beaucoup d'implémenteurs, de navigateurs ne vont supporter HTTP2 que sous format TLS. Donc, soit vous aurez la totale, soit vous serez downgradé en HTTP normal. Donc, Mozilla, ça fait partie de cette catégorie-là. Je crois que Chrome, c'est pareil. Safari, je sais pas. Internet Explorer, ils supporteront les deux, mais ils ont démarré avec la version HTTPS. Donc, c'est intéressant de voir... De voir que les acteurs veulent supporter le HTTPS par défaut et ça sera leur truc de priorité, quoi.
Oui, et j'allais dire, en fait, il n'y a pas que Chrome, mais je pense qu'ils vont intégrer ça directement à leur moteur et donc toutes les personnes qui vont se baser sur le moteur Blink de mémoire vont bénéficier de ces avancées. Je ne sais plus, je crois que c'est... Je ne sais plus si c'est Safari qui se base sur Blink.
Non, c'est Chromium.
Non, il y a un autre navigateur, mais peu importe.
Ah, Opera, alors.
Ça doit être Opera. Et donc, oui. Automatiquement, ils vont pouvoir bénéficier. Et donc, HTTP2, lorsqu'il sera implémenté correctement au niveau serveur, pourra justement apporter cette couche de sécurité supplémentaire d'office.
Sinon, il y a quelqu'un qui demandait est-ce que c'est légal de mettre en place des interceptions SSL chez un client ? Donc là, on parle pas de l'État qui fait ça, hein, ça c'est un autre débat. Et j'ai pas trouvé, donc en plus je suis pas un avocat, donc voilà. Mais effectivement, il y a des gens qui font de l'interception SSL, donc ils vont... vous êtes le navigateur en entreprise, vous passez par le proxy de la boîte, et puis le proxy, il va soit... casser au sens casser l'encryption, mais il va vous forcer à passer par lui. Donc vous allez voir un truc bizarre du genre le truc HTTP qui est barré, du genre tiens, il y a quelqu'un qui est en train de faire l'interception. Soit c'est un peu plus subtil ou vu que c'est le navigateur officiel de la boîte, ils ont rajouté une certificate authority, on en parlera un petit peu après, et du coup ils cassent le flux HTTP, ils le lisent, non pas, alors à la base en tout cas, non pas pour lire ce qu'il y a dedans, mais pour vérifier que quand vous allez sur un site web, il n'y a pas de virus, que ce que vous envoyez ou recevez en tout cas c'est correct versus la logique de la boîte, etc., etc. Mais ça veut dire que ça casse le protocole SSL entre vous et le serveur que vous croyez atteindre.
La CNIL a émis un avis là-dessus, effectivement. Ouais. Pour elle, l'entreprise peut le faire. Bon, il faut évidemment prévenir les employés. Et ouais. Si c'est fait correctement, en fait, ils vont installer chez le client le certificat maître et donc ils ne verront pas d'erreur. En fait, si jamais ils ne font pas ça, il y a beaucoup de sites qui ne sont juste plus accessibles parce qu'ils considèrent que il y a une attaque de l'homme du milieu, un man in the middle, et donc ils coupent la connexion. Maintenant, l'entreprise le fait des fois sur, par exemple, une machine qui va être entre l'Internet et le réseau intranet, mais ça peut être aussi fait directement sur la machine de l'utilisateur. On voit certains antivirus le font. Et ça pose un problème, c'est que lorsque l'utilisateur consulte le site Internet, il n'est plus capable de déterminer le niveau de protection. Il est capable uniquement de déterminer le niveau de protection entre lui et l'interception. Donc il verra un certificat, il verra le protocole utilisé, mais il ne sera pas capable de dire quel est le protocole utilisé entre la personne qui fait l'interception et le site Internet. Donc ça pose un problème de confiance, mais si c'est implémenté de façon correcte avec des gens qui savent ce qu'ils font, normalement ça ne pose pas de problème de sécurité.
D'accord. Arnaud, tu voulais rajouter un truc ou c'est bon?
Non, bah là tu disais oui, ça pose pas de problème de sécurité, mais par contre de confidentialité, ça c'est l'autre sujet qui va avec. Alors,
Ouais,
parce que
parce que
voilà,
là on est obligé de
aujourd'hui
faire confiance.
on se repose sur les deux. Enfin, quand on passe sur du HTTPS, on se dit à la fois on est sécurisé et on est en confidentialité. Voilà, on essaye de normalement, mais voilà. Donc là, on se rend compte que facilement, finalement, enfin facilement, on peut mettre en place des moyens qui nous laissent croire qu'on est en toute confidentialité, et ce qui n'est pas le cas.
Oui, mais en fait, si on utilise l'ordinateur donc donné par le travail, où il a installé cette autorité de certification, il a pu très bien aussi installer d'autres logiciels pour vérifier que on ne consulte pas
Tout
des
à
sites
fait.
internet pour dévoiler des informations confidentielles. Et en général, c'est prévu par le règlement intérieur. Et donc, on sait que l'entreprise nous surveille. Et si on veut consulter en toute confidentialité, on sort son téléphone et on active la 3G.
On est d'accord.
Ah, ça peut poser d'autres problèmes, mais probablement au-delà des capacités d'une boîte lambda. Ok, on va passer à. Bah alors, comment ça marche HTTPS? Parce que c'est juste un S après HTTP, puis après, ça se passe bien, hein, on est d'accord?
C'est ça.
Donc, on va peut-être pas rentrer dans le détail de super détail du protocole, mais Tom, explique-nous un petit peu, comment ça marche en fait.
Rapidement, il y a plusieurs versions du protocole. Donc, ça a commencé avec SSL, l'ancien nom, donc la version 2 puis la version 3. Elles sont malheureusement toutes les deux considérées comme cassées ou cassables. Et les versions suivantes donc ont été appelées TLS, donc version 1,
Toi, tu
1.1,
peux expliquer SSL, ça veut dire
1.2.
quoi?
Secure Socket Layer
Ouais.
et TLS, j'ai oublié l'acronyme. Transport Layer Security probablement.
Ouais, je crois que c'est ça.
Et c'est vraiment la suite du protocole. Ils ont choisi un ordre des nombres assez original, mais c'est ainsi. Et donc nous en sommes à la version 1.2 de TLS et la version 1.3 est en cours de finalisation. Donc globalement, comment ça se passe? Ça va être vraiment dans les grandes lignes parce que chacune de ces versions de protocole apporte des modifications sur la façon dont la communication se passe. Et chaque implémentation le fait de façon subtilement différente parce que elle n'implémente pas toute chacune des versions du protocole de façon différente, dans le sens où il n'y a pas une librairie SSLv2, une librairie SSLv3, etc., mais une librairie qui fait SSL TLS et qui réutilise plus ou moins les algorithmes, ce qui fait que au final l'algorithme réellement appliqué peut diverger de la norme. Mais dans les grandes lignes, il y a d'abord un premier handshake, une poignée de main, qui sert à vérifier l'identité du correspondant. Donc en général, c'est le client va vérifier l'identité du site internet. Donc il va dire bonjour, je parle SSLv2, SSLv3, TLS version 1. Et le serveur va lui répondre bonjour, moi je parle TLS version 1, TLS version 2. Donc on va parler en TLS version 1. Voilà les suites de chiffrement que j'accepte. Et là, il va envoyer son certificat. Et ensuite, ils vont communiquer de façon sécurisée en utilisant l'une des suites de chiffrement qu'ils ont en commun. Donc, le client envoie sa liste de suites de chiffrement dans l'ordre de préférence. Le serveur regarde cette liste de chiffrement, regarde quelles sont les possibilités de chiffrement qu'il connaît, les algorithmes de chiffrement, et choisit soit celui que le client préfère, soit, si on a dit au serveur, celui que le serveur préfère. Donc c'est une option au niveau du serveur pour lui dire prends ce que le client préfère ou prends ce que toi tu considères comme le plus sécurisé. Et donc, une fois qu'ils ont terminé cette poignée de main, donc qui utilisent la cryptographie asymétrique, donc avec le principe de clé publique, clé privée, comme c'est une cryptographie coûteuse, ils vont utiliser ça pour en fait s'échanger une clé de cryptographie symétrique qu'ils vont générer à partir des différents paramètres. Et ensuite, la suite de la communication sera juste du HTTP qui utilisera cette clé symétrique pour chiffrer les données. Donc, il y a la première poignée de main qui est un petit peu coûteuse, mais pour toutes les suivantes, en fait, pour, par exemple, quand on charge une page web, ensuite il faudra charger le JavaScript, les images et les pages web suivantes. Là, le client pourra dire, bonjour, tu te souviens, j'avais le ID 42. Et donc, le serveur dit, d'accord, je me souviens de la clé publique, de la clé symétrique que nous avons utilisée, et on continue directement. Ça permet d'éviter de refaire cette poignée de main à chaque demande de ressources pendant un temps défini par le serveur en fonction de sa mémoire, de combien de clés il a mémorisé. Voilà dans les grandes lignes.
J'ai une ou deux questions. La première, c'est qu'est-ce qui empêche que au tout début de la handshake, il n'y a pas quelqu'un au milieu qui triche et qui fasse croire au client qu'il parle au serveur alors qu'il parle à Monsieur Méchant, et Monsieur Méchant qui va parler au serveur et qui va faire croire au serveur qu'il parle au client. Tu vois, parce que tu dis qu'en gros la sécurisation et le protocole la suite d'encryptage, elle est décidée après le premier aller-retour de la poignée de main. Du coup, qu'est-ce qui empêche quelqu'un d'être au milieu au tout début là?
C'est là où interviennent les autorités de certification. En fait, le protocole permet d'identifier les personnes qui communiquent. Donc, en général, le serveur s'identifie avec un certificat. Mais ça peut être aussi valable dans l'autre sens, où le client doit s'identifier avec un certificat. Par exemple, certaines autorités de certification, lorsqu'on fait la demande de certificat, lors du processus, ce n'est pas un formulaire avec un login et un mot de passe, mais il faut installer dans son navigateur un certificat client. Et lorsque notre navigateur va se connecter à leur site internet, il va envoyer ce certificat client pour dire, voilà, je vous assure que je suis telle personne parce que j'ai le certificat. Et donc, pour identifier le serveur va envoyer un certificat. Le client va lire ce certificat et regarder est-ce qu'il lui fait confiance ou pas. Donc, ce certificat, par exemple, dans le cas du site Les Cascodeurs, si on regarde sur le petit verrou vert qui est affiché sur Google Chrome, on peut avoir les informations du certificat et on voit qu'il y a un chemin de certification. C'est-à-dire que le certificat n'est pas seul, il est envoyé avec d'autres certificats. Et donc le certificat Les Cascodeurs a été signé de façon cryptographique par le certificat Startcom, qui est le certificat d'une autorité de certification. Et donc on voit que le certificat Startcom est un certificat intermédiaire qui est lui-même signé par un autre certificat de Startcom qui s'appelle Startcom Certification Authority. Donc ce dernier certificat est installé dans mon navigateur et mon navigateur lui fait confiance. Et donc il considère que c'est bien au site Les Cascodeurs qu'il parle parce que la société Startcom assure, en ayant signé ces certificats, que le propriétaire du site Les Cascodeurs a bien prouvé qu'il possédait ce site internet et donc a bien la clé qui correspond à ce site internet. Si jamais le certificat des Cascodeurs était signé par une autorité que mon navigateur ne connaissait pas, mon navigateur me dirait « je ne connais pas cette autorité, voilà son certificat, veux-tu lui faire confiance ou non ?»
Ouais, et c'est ça qui est important, c'est que dans le certificat, donc il y a... Il y a un mécanisme qui permet de vérifier que le certificat, votre navigateur en a confiance ou a confiance avec un certificat parent. Mais ce qui est important, c'est que le certificat, il a la clé publique du message qui est échangé entre le client et le serveur. C'est-à-dire que le serveur, il va répondre, voilà ce que je sais faire, voilà la clé secrète qu'on va partager. Mais il va encrypter ça avec sa clé privée. On va recevoir le certificat, et le certificat, le navigateur, il va le regarder, il va regarder la clé publique et il va dire, est-ce que j'arrive à décrypter ce machin avec la clé publique qu'on m'a donnée. Et est-ce que du coup, je vois que c'est le garant, enfin que ce gars-là, c'est effectivement la personne qui avait la clé privée qui a pu m'écrire ça, en gros.
Voilà.
D'ailleurs, je sais même pas si c'est encrypté, mais en tout cas, c'est authentifié.
Chiffré.
C'est chiffré aussi?
Oui.
C'est ça que tu dis? Ok. Pardon.
Et il y a vraiment deux points dans le protocole. Il y a d'une part, est-ce que les données chiffrées sont bien chiffrées par la clé publique du certificat? Donc ça, c'est le côté technique du protocole où si là, ça n'est pas bon, c'est juste que il y a un problème, un vrai problème, probablement au niveau du réseau, ou quelqu'un qui essaie d'intercepter et qui fait mal son travail. Et donc là, la connexion s'arrête. Et il y a les problèmes au niveau de la confiance. Donc, est-ce que vous faites confiance à ce certificat? Où là, le navigateur peut pas déterminer si c'est juste un problème de réseau ou une vraie interception et doit demander à l'utilisateur, est-ce que tu fais confiance à cette personne ou pas?
Et comme l'utilisateur, il peut pas deviner qu'il clique OK pour avoir son site, on est mal.
De
Voilà.
moins en moins,
Mais
quand
c'est
même.
vraiment le problème des autorités. De moins en moins, ça devient très difficile.
Non, je disais de moins en moins. Enfin, là-dessus, les navigateurs œuvrent dans le bon sens. Tu regardes, je crois que c'est Chrome. Lui, par exemple, faut le chercher, le petit bouton pour aller sur le site où il y a un problème de certificat. Quand t'as un certificat qui est pas signé, faut lui dire, faut appuyer, faut, je sais plus quoi, faut trouver en bas le truc de oui, je veux vraiment y aller, etc. Je crois que par contre, sur Safari, oui, c'est clairement, c'est est-ce que tu veux continuer? Oui. Bon, voilà, c'est un gros bouton, oui. Sur Chrome, c'est l'inverse. Donc, je pense que les navigateurs aussi là-dessus ont une part importante de responsabilité
Ah
sur le
oui.
fait d'apprendre aux usagers à faire le bon choix sur ces choix-là quand la question se pose.
C'est vrai que c'est un
Clair.
vrai problème au niveau des navigateurs pour expliquer les erreurs. Firefox n'a pas fait beaucoup de progrès là-dessus. Chrome en a fait beaucoup sur expliquer à l'erreur à l'utilisateur, par exemple, le certificat n'est plus valide depuis un jour. C'est probablement que la personne a juste oublié de le renouveler ou que ton horloge est décalé d'une journée, ce qui n'est pas a priori une erreur grave, contrairement à un certificat qui est faux, où là, objectivement, c'est une erreur grave. Et c'est vraiment le travail du navigateur, essayer d'expliquer, est-ce que c'est probablement une mauvaise configuration du site internet et donc un problème temporaire, ou est-ce que c'est vraiment une interception?
Ouais. Donc on va avancer un petit peu. Il y a différents niveaux de certificat. Donc quand on demande un certificat et en fonction de nos bourses, on peut avoir des niveaux différents de certificat. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu les grandes classes de certificat et qu'est-ce que ça veut dire en gros?
Donc, il y a d'abord le concept de classe qui est plutôt libre du côté des autorités de certification, c'est-à-dire elles décident un peu ce qu'elles font. Mais dans les grandes lignes, le certificat classe 1, ça permet d'assurer que oui, le site Les Cascodeurs, c'est bien la même personne qui possède le site et la personne avec laquelle vous êtes en train de parler. C'est juste vérifier que le domaine est correct. On dit que c'est du domaine validation. Ensuite, il y a les certificats en général classe 2, où là, c'est des certificats où on dit organisation-validation. C'est-à-dire que l'autorité de certification a vérifié que oui, cette personne possède bien ce site internet, mais il a aussi envoyé une carte d'identité, un CABIS, quelque chose prouvant que c'est cette personne, mais de façon assez légère. C'est-à-dire c'est juste une photocopie, un email, c'est très probablement cette personne, mais on n'en est pas sûr. Et ensuite, il y a les certificats classe 3 qui permettent de faire de l'extended validation, où là, en fait, l'autorité de certification va faire des recherches supplémentaires pour vérifier que la personne qui demande le certificat a bien l'autorisation de la société et que la société existe réellement, a une adresse postale, etc. Et donc, va faire beaucoup plus de démarches afin de vérifier non pas juste que le site internet existe et que vous parlez bien au bon site internet, mais aussi que c'est bien l'organisation derrière ce site internet qui le possède.
Ouais. Et donc vous, du point de vue du navigateur, classe 1, classe 2, je crois pas qu'il y ait vraiment beaucoup de différences visuelles, mais classe 3, on voit en général une grosse barre verte avec le nom de la société affiché explicitement dessus. Donc c'est là où c'est ce qu'ils essaient de vous vendre en tout cas les autorités de certification.
Voilà.
Ah, et
Et donc avec ces
ouais.
différentes classes, ces types de certificats, viennent différentes garanties. En général, avec la classe 1, il n'y a aucune garantie. C'est Juste, vous avez demandé un certificat pour pouvoir chiffrer les données, vous l'avez. Avec les classes 2 et 3, en général, viennent des garanties. Par exemple, si le certificat était mal généré ou si jamais il y avait un problème de sécurité lors de la génération du certificat, alors les clients du site internet pourraient être remboursés si, par exemple, vous faites du commerce en ligne.
D'accord.
Et donc,
mais bon, ça arrive jamais parce que le point faible, c'est jamais le clé de chiffrement ou une erreur comme ça, parce que tout ça, c'est quand même pas mal automatisé. Non?
C'est complètement automatisé en général. Et surtout, une autorité de certification qui ferait ce genre d'erreur risquerait d'avoir la confiance de tous ses clients ébranlés. Et donc, ils sont extrêmement sérieux de ce côté-là.
Ouais. Alors nous, on a un classe 2, les cascodeurs, on a un classe 2 individuel, qui veut dire qu'ils ont vérifié que c'était bien Emmanuel Bernard qui existait, donc ils m'ont demandé effectivement des pièces d'identité, ils m'ont même appelé, ils m'ont demandé 2-3 trucs. Donc voilà, et parce qu'on n'est pas une organisation en tant que telle, donc on n'aurait pas pu fournir un CABIS ou un justificatif d'existence d'une association ou de choses comme ça, qui est le classe 2 d'organisation tel que tu l'as décrit un petit peu après.
Oui. Cette Extended Validation, c'est vraiment ce qu'on voit dans le navigateur, comme tu disais, avec le nom de l'organisation, mais aussi le pays. Et il faut faire très attention lorsqu'on a un site web de ce type-là, car à la moindre erreur dans la configuration, on perd automatiquement cette jolie barre verte pour avoir le simple petit HTTPS en vert. Par exemple, si on utilise des suites de chiffrement obsolètes. Donc, vu le prix de ce type de certificat, il faut vraiment faire attention à la sécurité derrière, parce qu'en général, ils sont de l'ordre de 10 à 100 fois plus chers que les autres. Et c'est assez triste de devoir payer une telle somme pour n'avoir aucun résultat.
C'est clair. Bon, après, il y a un mec qui a justifié qu'il a acheté ça, si ça marche pas. Donc après, t'arrives souvent dans des grandes boîtes qui sont peut-être un peu moins. Tu vois, il y a des problèmes d'organisation, il y a de l'erreur humaine qui fait que ça pourrait arriver. Enfin, ça me surprendrait pas que ça puisse arriver que quelqu'un paye X centaines ou milliers d'euros et qu'au final ils ont pas leur super barre verte.
Oui. Je l'ai vu régulièrement sous Twitter, je crois, parce qu'ils utilisaient encore des certificats SHA1 ancienne version, et donc Chrome considérait que ce n'était plus assez sécurisé.
Ouais. C'est marrant ça, parce que on en parlera après, mais il y a un forum des autorités de certification, etc. Mais le gars qui a le pouvoir, c'est le navigateur le plus répandu, en fait. Et Chrome et Google en général, là, depuis quelque temps, sont hyper agressifs sur ce qu'ils estiment être le droit chemin et utilisent Chrome en levier pour justement imposer aux gens qui utilisent des certificats et aux certificate authority d'aller vers ce qu'ils considèrent être le truc bien. Notamment SHA1 où on estime, il y avait déjà une procédure pour le faire partir. Donc Microsoft avait dit, je crois, d'ici 2017 ou 2016, on n'acceptera plus de certificats qui ont été je sais pas comment on dit, comment on fait, qui ont été hachés avec SHA1, parce que on estime que d'ici, je sais plus, 2020, je crois, SHA1 sera cassable avec des grosses machines. Chrome a décidé quasi à quelques mois près de dire non, bah nous c'est tous les certificats nouveaux à partir de ce mois-là qui seront pas en SHA1, on baissera leur retour visuel dans Chrome, voire même on dira qu'ils sont pas sûrs. Et
oui,
donc
mais
ça a fait tout un pataquès dans l'univers des certificates authority.
Mais ils sont revenus un petit peu en arrière, en fait, sans l'annoncer officiellement, ils ont décalé d'une version ce processus. Ils avaient dit que les certificats au-delà de 2017, juste, ils seraient plus valables. Je crois que c'est au-delà de 2016, il fallait qu'ils soient valables un peu moins longtemps. Enfin, voilà, donc ils avaient mis quelques règles et ils avaient dit dans telle version, ce sera 2017, dans telle version, ce sera 2016. Ils ont décalé tout d'une version pour faire une transition un peu plus souple.
Ouais. Donc, et le truc pervers, c'est que Google utilise SHA1 sur ses certificats à eux, Pourquoi et comment est-ce qu'ils font pour que ça rentre dans leur policy quand même? Eux, leurs certificats, ils ont une durée de vie extrêmement courte et la politique qu'ils ont mis en place sur Chrome, c'est si votre certificat est encore valide d'ici alors 2016 ou 2017, à ce moment-là, on ne l'autorisera pas en SHA. Et pourquoi ils utilisent SHA et pas SHA 256 qui est celui qui est accepté? C'est qu'il y a encore des vieux navigateurs qui ne supportent pas, notamment Windows XP plus Internet Explorer de base. Je crois que il marcherait pas si vous arriviez avec un certificat SHA 256.
Oui, c'est bien à cause de ce navigateur qu'on est complètement bloqué. Et c'est aussi un des problèmes global du SSL TLS. C'est est-ce qu'on accepte les anciens navigateurs au risque de mettre tout le monde en danger au niveau de la sécurité? Et donc, en fonction de nos visiteurs, on doit décider. Il y a Mozilla qui essaye de faire en sorte que ces sites internet soient extrêmement sécurisés, mais d'un autre côté, ils distribuent un navigateur et n'importe qui achète un ordinateur, va en premier aller sur leur site pour télécharger leur nouveau navigateur et donc vont utiliser par exemple Internet Explorer. Donc si aujourd'hui vous avez une machine avec Windows 98 et que vous souhaitez télécharger Firefox, il faut espérer qu'ils aient encore des certificats SHA, sinon vous ne pourrez juste pas télécharger un navigateur qui soit capable de comprendre autre chose que SHA.
Ouais.
C'est un comble.
Ben ouais, mais
Oui.
c'est le côté pervers. C'est combien de temps t'estimes est la durée de vie d'une machine, et du coup, combien de temps tu gardes ton approche de sécurité la plus faible en fait. Parce que plus tu la gardes, tu pourrais très bien dire ouais, je garde tous les trucs de sécurité les plus faibles. De toute façon, j'ai dit d'abord utilise la super bien, et puis au pire utilise la super mauvaise. Mais le problème, c'est qu'il y a des attaques qui utilisent ce genre de choses. Et donc, il se met au milieu et dit « Non, moi, je suis très vieux, je sais utiliser que le truc très faible. » Et hop, il négocie une clé de sécurité très, très basse. Enfin, une approche de sécurité très, très basse. Et hop, après, bon, avec plus ou moins de machines, ils arrivent à casser l'échange, en fait. Pervers, pervers, tout ça.
Ouais. Bon. Juste pour rebondir sur ce point, on a vu effectivement ce problème avec les suites dites export. Ce sont les suites qui ont été autorisées à l'export par le gouvernement américain parce qu'elles étaient assez fortes pour pouvoir utiliser ces suites dans des sites bancaires par exemple à l'époque, mais assez faibles pour que le gouvernement américain puisse quand même lire les données qui passent si jamais il le souhaitait. Et le problème, c'est que certains sites internet supportent encore ces suites export. Et simplement, le fait que le site internet les supporte, même si on a le dernier navigateur possible qui supporte les dernières suites de chiffrement les plus sécurisées, malheureusement, certaines attaques permettent de dire non, non, utilise juste les suites export qui sont juste cassées aujourd'hui. Et donc, supporter des protocoles de cryptographie obsolètes met en danger tout le monde, mais il faut quand même en supporter certains en fonction du public visé par cet internet.
Ouais. Donc il y a des suites d'encryption qui sont de cryptage, je sais jamais les mots qu'il faut utiliser en français, mais il y a des suites de cryptage qui sont considérées comme armes de guerre, hein, donc c'est de là que venaient les limitations d'export du gouvernement américain.
Juste pour la
Sinon on a passé.
terminologie,
Oui. Oui, vas-y.
cryptage, c'est mettre dans une crypte. Chiffrement,
D'accord.
c'est chiffrer avec.
D'accord. Donc du cryptage digital, en fait, c'est de gratter avec ses petits doigts dans une crypte. C'est ça.
Voilà.
Comme ça, on le sait. Donc on va parler des différents certificats. Alors on a vu qu'il y a des différentes classes, mais un certificat SSL à la base, il est donné pour un. Alors ça peut marcher pour les emails aussi, mais là on va parler que des sites web. Il est donné pour un site web donné. Mais il y a d'autres certificats qui permettent de supporter plusieurs noms de domaines, noms de sites web. Est-ce que tu peux détailler un petit peu, Tom?
Voilà, donc en fait, il y a les certificats qui sont juste pour un domaine, donc certificat simple, c'est les premiers qui existaient. Puis on s'est rendu compte que en fait, on a besoin de certificats pour plusieurs domaines, et donc ils ont rajouté des extensions sur les certificats pour rajouter des listes de domaines, et donc pour dire que non, on veut pas juste un certificat pour lescascodeurs.com, mais aussi pour www.lescascodeurs.com, blog.lescascodeurs.com, etc. Et donc ça permet de faire des certificats multidomaines. Et en fonction du nombre de domaines que l'on souhaite, les autorités de certification utilisent des tarifs différents. En général, le domaine simple, il donne gratuitement avec les 3W en plus. Mais si on souhaite plus que le domaine et le domaine avec les 3W, il faut tout de suite payer un peu plus cher. Et ensuite, il y a le deuxième grand type de certificat, c'est le certificat Willcard, où là, on dit étoile.lescascodeurs.com. Ça permet d'éviter de générer un certificat par sous-domaine et donc d'avoir un certificat pour tous les prochains domaines que l'on aura. Et ça permet aussi de résoudre d'autres problèmes si jamais on a différentes machines avec différents domaines. Ça permet de présenter le même certificat partout et donc d'être sûr qu'il n'y ait aucune erreur. Par contre, ces certificats
Pourquoi ça
des...
marcherait pas sur le multidomaine, ça?
Par exemple, si on souhaite faire tonnom.twitter.com, Twitter ne peut
Ouais.
pas générer de nouveaux certificats à chaque nouvel inscrit. Ça
Ah oui, bien
demanderait à
sûr,
mettre
ok.
en place
Ah oui.
une infrastructure complexe. Juste, il suffit d'avoir un certificat multidomaine. Il y a juste deux choses à savoir. C'est le certificat Willcard. Ça ne marche que pour un sous-niveau. C'est-à-dire que étoile.lescascodeurs.com, ça marche pour blog.lescascodeurs.com, mais ça ne marche pas pour www.blog.lescascodeurs.com. Et le deuxième point important, c'est que les certificats Extended Validation ne peuvent pas être Willcard.
Ah, d'accord.
Donc
Et
il
il y
faut
a un
faire le choix.
troisième point, c'est que le certificat wildcard ne peut pas garantir le nom de domaine juste lescascodeurs.com. Donc si on veut supporter lescascodeurs.com et n'importe quoi.lescascodeurs.com, il faut un certificat wildcard et un autre certificat simple ou multidomaine, de ce que j'ai compris.
Non, ça peut être en fait directement un certificat multidomaine. Ça va être un certificat lescascodeurs.com avec en second domaine étoile.lescascodeurs.com. Ça va être le même certificat qui va être présenté.
D'accord. Ok,
Et
j'avais mal compris.
techniquement, rien n'empêche de rajouter plusieurs wildcards, plusieurs domaines, etc. Simplement, les autorités de certification ne le font pas. Probablement parce que les certificats Willcard sont déjà extrêmement chers et donc ils se sont dit on va pas multiplier le prix par 10, ils vont juste acheter de nouveaux certificats.
D'accord. Il y a un autre truc, donc il y a un certain temps, au début d'Internet. Sécurisé, il y avait une règle, même jusqu'à il y a assez récemment, pour un certificat donné, enfin disons qu'on peut pas mettre sur une même machine avec une seule IP, plusieurs hostés, enfin héberger plusieurs sites avec des certificats différents.
En fait,
Est-ce
c'est
que
lié au
tu...
protocole.
Vas-y.
C'est lors de la poignée de main, on dit bonjour, j'aimerais visiter votre site internet. Et donc, le serveur répondait d'accord, voilà mon certificat. Est-ce que tu es d'accord pour me parler? Et le problème, c'est que quand on a plusieurs sites derrière la même IP, éventuellement sur la même machine ou sur des machines différentes, lors de la première requête, on ne disait pas bonjour, je voudrais visiter les cascodeurs. On disait bonjour, je voudrais visiter un site sur votre machine. Et donc le serveur web présentait le premier certificat qu'il avait, en général en fonction de l'ordre de déclaration dans ses fichiers de configuration. Et si jamais ce n'était pas le bon certificat, le navigateur présentait une erreur. Depuis, ils ont rajouté une extension au protocole qui s'appelle SNI, où là, les navigateurs récents, quand ils se connectent à un site internet, lors de la partie poignée de main, ils disent bonjour, je voudrais visiter lescascodeurs.com. Et le nom de domaine passe en clair, donc n'est pas chiffré. Et donc, derrière, le site peut présenter le certificat qui correspond à ce domaine. Ça pose évidemment
D'accord.
des problèmes de confidentialité, puisque on vient de faire passer une information en clair alors qu'on souhaiterait utiliser le HTTPS, mais ça permet de résoudre
Ouais, si
le
tu...
problème du multidomaine.
Donc si tu vas sur porno pour lescascodeurs.com, donc les gens le verront, quoi.
C'est
Par
ça.
exemple. Sinon, juste, c'est Server Name Indication. Donc SNI. Server Name Indication.
Il faut que la partie serveur soit à jour aussi. Non,
Faut
je
que la
disais
partie client, surtout.
bah client et serveur, c'est-à-dire que le serveur aussi, je me souviens qu'il y avait des histoires, enfin par exemple Apache, c'est une certaine version d'Apache ou de son module HTTPS je crois qui supporte SNI etc. Donc faut bien que les deux côtés le supportent.
2.4, ouais.
Ouais, c'est oui, ça quelque chose comme ça. Donc
Mais ça, c'est pas grave parce que si ton client il dit, en fait, il va juste utiliser la version d'avant du protocole. Par contre,
Ouais.
si toi, ton serveur, t'héberge plusieurs
Ouais, voilà,
sites,
c'est ça.
que tu t'appuies là-dessus, il faut que tous les clients que tu estimes qui vont accéder à ton site supportent SNI. Et ça, je crois, là encore, vous pouvez aller sur Wikipédia, il y a une page web qui explique ça avec les gens qui supportent pas. Et il y a encore XP avec Internet Explorer qui supporte pas SNI notamment. Donc par exemple, les cascodeurs, ça marche pas sur Windows XP avec le Internet Explorer de base.
Enfin, ça marche, il y aura juste une erreur disant que le certificat présenté n'est pas le bon.
Ouais, c'est ça.
Mais si Emmanuel n'héberge qu'un seul site, parce que sinon, s'il héberge plusieurs sites sur son, je sais plus comment il fait l'infrastructure des cascodeurs, mais potentiellement, il va pas savoir sur lequel il tombe, si.
Non, alors là, si j'hébergeais qu'un seul site, il n'y aurait pas de problème. C'est-à-dire que Windows XP, enfin, ça marcherait pas parce que j'utilisais Sacha 256, mais mettons que j'utilisais Sacha 1, les gens qui utilisent Windows XP avec Internet Explorer de base et donc qui sont pleins de verre et de botnet, peuvent accéder au cascodeur. Il se trouve que j'héberge aussi emmanuelbernard.com
Voilà.
sur la même machine,
Ouais.
qui est aussi en HTTPS, et donc à ce
Voilà.
moment-là, il y aurait l'erreur dont Tom parle au niveau du navigateur qui va dire, bah, désolé, c'est pas le bon certificat.
Par contre, après, vu que HTTPS est juste une surcouche, lorsqu'on fera la vraie requête HTTP, lorsque IE fera la requête HTTP, il précisera évidemment quel domaine il souhaite. Donc à ce moment-là, ce sera le bon site qui répondra. Donc c'est juste un problème de certificat, mais ça n'empêche pas au final la connexion. Juste pour
Ok.
préciser, il n'y a
Ouais.
pas que XP qui a un problème, il y a aussi les Android 2.3 de mémoire et version précédente qui ne connaissent pas le SNI.
Ouais, exact. Et puis Java 6.
Et Java 6, mais il y a d'autres soucis avec Java dont nous parlons plus tard.
Voilà, on va détailler les autorités de certification. Donc on a commencé déjà à en parler. Donc en gros, pourquoi est-ce que mon navigateur a confiance dans le serveur, enfin dans le certificat des cascodeurs? Donc Tom, tu t'as expliqué ça, c'est qu'à un moment, il y a Start.com qui a son certificat qui est accepté dans mon navigateur. Et du coup, comme Start.com a signé un certificat intermédiaire qui a signé le certificat des cascodeurs, il y a une chaîne de sécurité une chaîne de confiance qui est établie. Et à ce moment-là, c'est pour ça que mon navigateur accepte les cascodeurs. C'est ça?
Voilà. Donc en fait, les certificats d'authority, c'est un conglomérat d'opérateurs plus d'autres personnes qui sont autorisées à signer des certificats pour les sites Internet. Donc autorisées par qui? Par les navigateurs. C'est-à-dire que quelqu'un qui voudrait signer des certificats va aller voir les navigateurs, leur dit bonjour, j'ai une nouvelle entreprise, je souhaiterais signer des certificats. Et là, il faudra qu'il prouve qu'il est capable d'avoir une entreprise, une infrastructure extrêmement robuste, et qu'il est capable de faire ça de façon sécurisée, qu'on est capable de lui faire confiance. Et après un processus de certification pendant plusieurs années, le navigateur décidera ou pas de l'inclure dans son magasin de certificats. Et donc, chaque navigateur utilise son magasin de certificats. Certains navigateurs utilisent le magasin de certificats de la machine.
Du
Et
système d'exploitation, ouais.
voilà, et donc chaque système d'exploitation a aussi la liste des autorités de certification qu'il reconnaît, ce qui fait au final un grand bazar. Et parce que chaque nouvel entrant, pour avoir disons une autorité et pour pouvoir réellement signer le certificat, doit être reconnu par les plus grands navigateurs. Et seulement, ça prend vraiment un certain temps parce qu'il faut que tout le monde ait installé la dernière version du navigateur proposant ce certificat. Et ce qui fait que pour avoir des nouveaux entrants, c'est extrêmement difficile. Et d'un autre côté, nous avons des personnes complètement étrangères à ce système qui permettent de signer. Par exemple, les États qui disent, bonjour, mettez-moi dans votre magasin de certificats. Et là, les navigateurs n'ont juste pas le choix dans certains cas. Parce que juste vous êtes américain et vous avez une société en Amérique, si jamais le gouvernement américain vous dit d'ajouter un certificat dans l'utilisation d'un certificat, s'il y a un juge qui vous le demande, vous n'avez pas le choix. Et donc, nous nous retrouvons avec des autorités de certification extrêmement diverses. Et chacune de ces autorités de certification a le droit de signer pour n'importe quel site. C'est-à-dire qu'une autorité de certification chinoise a le droit de certifier un site américain et inversement. Et cela pose des problèmes de confiance. Et donc, on suppose qu'aucune autorité de certification ne signe pour un site auquel elle n'est pas censée signer. C'est-à-dire qu'une autorité de certification chinoise, si elle signe pour le site du Trésor américain, je pense qu'il faut trouver sa louche. Inversement, le site du Trésor chinois, si jamais il est signé par une autorité de certification américaine, ce sera probablement louche. Mais il est impossible de savoir si c'est réellement une action volontaire. C'est-à-dire que le site du Trésor américain a pris la première autorité de certification qui leur plaisait et il se trouve qu'elle était chinoise, ou est-ce que c'est réellement une attaque délibérée. Et donc, il y a ce problème qui se pose.
C'est louche, mais par défaut, on en parlera après, il y a d'autres options, mais par défaut, c'est pas facile à avoir. Il faut aller cliquer sur le fameux... comment on appelle ça? Mince. Enfin, faut aller cliquer sur le padlock, comment dire. Ouais, sur le cadenas, merci. Il faut regarder la chaîne et se dire, tiens, c'est bizarre, google.com, il est autorisé par l'autorité chinoise et pas par GeoTrust. Louche. Voilà. Donc, en termes d'humains, il y a quand même du boulot pour voir qu'il y a eu un truc bizarre qui s'est passé.
Voilà. Et donc, dans chaque navigateur, nous avons entre 100, 200 ou 300 autorités de certification qui chacune peuvent signer des certificats. Donc ça veut dire que si l'une de ces 300 autorités de certification soit est forcée par son gouvernement à signer un certificat qu'elle n'était pas censée signer, soit juste parce qu'elle a eu un problème de sécurité et quelqu'un lui a volé un certificat, ça arrive aussi. Dans ce cas, ça met l'intégralité du système en danger. Et en général, une autorité de certification qui est prise sur le fait en train de signer un certificat qu'elle n'aurait pas dû signer, les navigateurs révoquent cette autorité et donc publient une mise à jour disant que ce certificat n'est plus reconnu et donc ils n'ont plus le droit de signer.
La dernière donc, tous les clients et surtout tous les clients existants de cette autorité vont avoir leur certificat qui dit désolé, il n'est pas valide. Donc c'est enfin en gros ils ont plus de business quoi.
Voilà. Et il y a eu ce cas, je crois que c'était avec une autorité de Hong Kong dernièrement et où Chrome leur a dit, enfin Google leur a dit, si vous voulez revenir, vous devrez utiliser telle nouvelle méthode qui permet de nous assurer que vous ne délivrez plus de certificat contrefait. Et donc cette nouvelle méthode, c'est Certificate Transparency. J'en parlerai peut-être un petit peu plus tard.
D'accord. Et donc ce qui s'est passé, c'est que donc je crois que c'est China Inc. Ils ont donc c'est une grosse autorité de certification reconnue pour une raison. Alors et normalement les autorités de certification, ce qu'elles ont, c'est un certificat qui permet de créer et de signer d'autres certificats. Mais moi, le certificat les Cascodeurs, il ne me permet pas de signer, de créer d'autres certificats. D'accord. Il y a une, je sais pas, il doit y avoir un flag quelque part qui m'interdit.
Oui,
et
voilà.
Ce qui s'est passé, c'est ouais, c'est que China Inc., quelqu'un lui a demandé, est-ce que tu peux me filer un certificat qui me permet de signer d'autres certificats? Je te promets, je vais l'utiliser que pour mes trucs personnels et ça se passera bien. Donc ils ont dit oui. Il se trouve que ce client final qui avait un certificat qui permettait de signer d'autres certificats a signé un certificat, enfin l'a installé sur une de ces fameuses proxys qui permet de casser le, enfin de faire l'intermédiaire avec le SSL. Ils se sont fait choper parce que Chrome, en fait, quand il voit qu'il y a un certificat Google qui est pas signé par, enfin, qui est un truc louche, et on parlera après de comment ils ont trouvé ça, mais il appelle la maison et dit, désolé, il y a un truc louche, il y a un machin qui m'a envoyé un certificat Google qui a été signé par tel truc, mais c'est pas normal. Donc, c'est là que Google s'est un petit peu énervé et donc ils ont échangé avec China Inc. et leur ont dit, bon, ben, si vous voulez revenir, voilà les règles, quoi.
Voilà. Et il y avait le même problème en France il y a 2 ans, je crois, avec l'ANSSI qui avait fait la même chose et avait donc un certificat pour signer d'autres sites internet qui devait être utilisé en interne pour le gouvernement et malheureusement ça a été utilisé sur des machines accessibles depuis le public et donc Google a de la même façon détecté et donc ils se sont fait révoquer leur certificat.
Ouais. Et du coup j'ai une question pour toi parce que donc Chrome, il appelle la maison en disant il y a machin qui dit que c'est un certificat Google, mais en fait c'est pas un certificat qui a été fait par nous, d'accord?
Oui.
Mais qu'est-ce qui se passe si moi j'utilise Chrome derrière un réseau qui a ce fameux truc SSL avec une autorité de certification maison? Donc, mettons, je m'appelle Acme Incorporated. Donc, j'ai installé sur la machine dans Chrome Acme Incorporated et ma boîte de proxy va créer à la volée un certificat Google en disant, ben, je suis le certificat Google. Du coup, moi, mon navigateur, quand il appelle Google, il passe par cette boîte-là. La boîte, elle décrypte, elle vérifie qu'il n'y a pas de virus, je sais pas quoi. Et ensuite, elle va réencrypter avec Google. Mais ça veut dire que mon navigateur Chrome, il a bien vu un certificat Google qui était faux. Donc, je me demande donc à quel niveau Google s'énerve. Enfin, pourquoi il s'énerve dans certains cas et pas dans d'autres, en fait, tu vois?
En fait, ça vient du fait que lorsqu'on installe un certificat dans son navigateur, Google sait que ce n'est pas, enfin, Chrome sait que ce n'est pas un certificat auquel il fait confiance de base. Donc, il différencie bien les certificats, Certificate Authority, de sa liste, de base et les Certificate Authority que l'utilisateur lui a donné. Ce sont vraiment deux listes séparées. Et donc, quand c'est un Certificate Authority de la liste de base, là, effectivement, si ce n'est pas le certificat correct qu'il voit, il sait que c'est une erreur. Par contre, si jamais il voit que c'est un certificat auquel fait confiance l'utilisateur, il sait que c'est pour faire ce genre d'interception. Et donc, peu importe que le site internet ait dit non, non, il n'y a que l'autorité de certification de Google qui a le droit de me certifier, Chrome va automatiquement ignorer ces mécanismes et accepter l'autorité de certification de l'utilisateur. Mais on voit ça très bien, par exemple, sur les téléphones Android. Lorsqu'on installe une autorité de certification, il affiche assez régulièrement le message, attention, quelqu'un peut faire du man in the middle sur votre téléphone. Pour vraiment prévenir l'utilisateur que Chrome ne pourra plus détecter si quelqu'un fait un man in the middle ou pas.
Tiens, d'ailleurs, pour faire une Guillaume, là, le man in the middle, ça pourrait se traduire si j'avance quand tu recules, comment veux-tu, tu vois. Ça, c'est la version française. Bon, désolé, je vais
Guillaume
fermer la
sort de ce corps.
parenthèse. Ok, donc on a bien vu que c'était quand même un système assez faible. Est-ce que tu veux parler du protocole Dane pour justement éviter ce genre de problème?
Je vais rapidement faire un tour sur l'épinglage de certificats et le protocole Dane. En
Ouais.
fait, pour l'instant, n'importe quel Certificate Authority peut signer un certificat pour n'importe quel site internet. Il n'est pas possible de dire, bon, cette Certificate Authority a le droit d'utiliser ces certificats pour étoile.com, tel autre pour étoile.fr, ça n'est pas possible. Le protocole juste ne le prévoit pas. Et donc, c'est open bar pour tout le monde. Maintenant, les sites internet, il y a un nouveau mécanisme qui permet de dire, par exemple, sur Chrome, mon site, il n'y a que cette liste de Certificate Authority qui ont le droit de la signer. Et donc, cette liste, par exemple, chez Google, ils ont mis une dizaine de Certificate Authority. Pareil chez Twitter, etc. Et donc, dans Google Chrome, il y a une liste de sites internet qui ont dit, voilà quel Certificate Authority ont le droit de signer des certificats pour moi. Et si jamais ça vient de quelqu'un d'autre, c'est forcément une erreur. C'est un premier protocole et on voit très bien que ça ne résiste pas à la taille du web parce que c'est juste un format type JSON dans le code de Google Chrome et ils peuvent pas mettre l'intégralité des sites web qui existent.
Ouais, en plus, faut attendre une nouvelle version de Google Chrome le temps que t'arrives. Bon, ça arrive vite, hein, mais c'est littéralement l'équipe Chrome qui rajoute
Voilà,
la
à la
liste à la
main.
main, quoi.
Et ça pose un autre problème, c'est que si jamais le site web fait une erreur, c'est arrivé avec un site web de mail sécurisé de mémoire l'an dernier, juste il se tire une balle dans le pied, c'est-à-dire que jusqu'à la prochaine version de Chrome, plus personne ne peut accéder au site internet. Ce qui pose quand
Sous
même un
Chrome.
gros problème. Voilà. Et donc ils ont ça permet de faire un épinglage de certificats, disant que voilà les seuls certificats qui peuvent me signer. Et ils ont rajouté un header HTTP qui permet de faire la même chose mais de façon dynamique. C'est-à-dire que lorsqu'on se connecte sur le site la première fois, le site envoie en même temps un message disant voilà la liste des certificates d'autorité qui ont le droit de me signer, ou voilà la liste des certificats qui sont valides pour moi. Et dans ce cas-là, le navigateur le mémorise pour la durée qu'on lui dit. Et si jamais, pendant cette durée, il voit un autre certificat que l'un des certificats de la liste, alors automatiquement, il sait qu'il y a une attaque et est capable de prévenir l'utilisateur. Ce protocole pose quand même certains soucis parce que c'est quand même du trust on the first use. Il faut quand même que la première connexion se fasse dans un environnement sécurisé, sinon on n'est pas capable de dire s'il y a un man in the middle ou pas à ce moment-là. Et un protocole qui propose de corriger ces faiblesses-là, ce serait DANE. C'est-à-dire, dans le DNS, en même temps que lorsqu'on demande quelle est l'adresse IP pour le site et Cascodeur, en même temps de donner l'adresse IP, il puisse donner la liste des certificats qui ont le droit de signer pour ce site internet. Bon, évidemment, ça suppose d'avoir un DNS sécurisé et donc DNSSEC. Et malheureusement, aucun de ces deux protocoles n'est disponible aujourd'hui de façon utilisable dans le navigateur. Même si énormément de sites internet sont actuellement signés avec DNSSEC et que certains add-ons permettent de vérifier l'enregistrement DANE, ça n'est pas fait de base d'un navigateur. Mais en attendant, nous avons certaines possibilités pour restreindre les autorités permettant de signer les sites internet.
Donc attends, alors on va revenir un petit peu en arrière. Donc le premier, c'est un truc qui est proprio à Chrome. Et donc faut être un peu dans peut-être dans les petits papiers de Google ou après c'est eux qui choisissent. Mais celui-là, l'avantage, c'est que même à la première connexion, là, on est safe.
Voilà.
Le deuxième, ça s'appelle OCSP Stapling, qui veut dire Online Certificate Status Protocol Stapling, qui...
Non,
c'est pas
comprends.
Ça. Confond. Ok, tu désolé.
C'est HPKP. Header Public Cleaning. Donc, épinglage de clé publique via en tête HTTP.
Et celui-là, tu épingles... En fait, tu épingles pas l'autorité de certification, mais tu épingles le certificat en lui-même.
En fait, c'est-à-dire épingles ce que tu veux. Ça peut être l'autorité de certification ou ton certificat. Si jamais tu fais vraiment confiance à ton autorité de certification et que tu es certain que personne ne lui demandera de signer un autre certificat, dans ce cas-là, tu peux l'épingler elle.
C'est pour ça que tu disais dans la chaîne, c'est dans l'épinglage, il est dans quelque part dans la chaîne de confiance. C'est ça que tu me disais par email.
Voilà, il faut que l'un des certificats soit dans la chaîne. Et donc, si jamais tu veux être sûr que c'est toujours au même serveur qu'on se connecte, tu peux épingler directement ton certificat. Et là, tu es sûr que même si l'autorité de certification la tienne signe pour quelqu'un d'autre, ça ne sera pas reconnu comme valide.
Alors. Qu'est-ce qui se passe si je dis je l'autorise pour 8 mois, mais qu'en fait il me reste 3 mois sur mon certificat?
En fait, ça dépend. Si tu as épinglé ton autorité intermédiaire, il est possible qu'au changement de certificat, elle te signe ton certificat avec une autre autorité intermédiaire. Soit parce que la précédente autorité intermédiaire avait une durée de validité trop faible, soit juste parce qu'ils ont envie de changer. Par contre, si tu as épinglé... en fait, on n'épingle pas les certificats, on épingle les clés publiques. Et donc, même si tu renouvelles ton certificat, si tu utilises la même clé publique, ça ne pose aucun souci. De plus, contrairement à l'épinglage qui est fait dans le code de Chrome, pour épingler avec ce header HTTP, il faut absolument que dans la liste que tu fournis, qu'il y ait un des certificats qui ne soit pas dans la liste. C'est ce qu'on dit un certificat de sauvegarde, qu'il faut garder quelque part. Donc, ça peut être sur le même serveur, même si c'est relativement déconseillé. Ça peut être dans un coffre à la banque. Et si jamais tu as un problème, juste tu ressors ce certificat-là et tu es sûr de pouvoir signer un certificat qui sera accepté par le navigateur par la suite.
D'accord. Ok. Donc, alors, voilà, c'est le truc que j'ai envie de faire... J'ai envie de faire là pour les cascodeurs, mais pour l'instant je suis pas encore 100% confiant que j'ai pas faire de conneries, etc. Donc pour l'instant j'ai pas activé ce truc là.
Oui, on voit bien, même les développeurs de Chrome disent il ne faut l'activer que si tu es certain de savoir ce que tu fais et que tu es certain de pouvoir gérer ça dans la durée. Parce que il faut savoir que si tu mets une durée trop longue, tu te retrouves bloqué avec une liste de certificats pour toute cette durée. Si tu mets une durée trop courte, ça veut dire que les clients doivent se connecter au moins, par exemple, si tu mets une durée d'une journée, au moins tous les jours à ton site pour garder cette sécurité. Donc, il faut faire extrêmement attention à cette durée-là. Je pense qu'une durée de
l'ordre
de
quelques jours... Plus c'est court et moins c'est safe, plus c'est court et moins c'est safe, plus c'est long et plus tu te mets de risque à toi, c'est-à-dire si tu as perdu tes clés de backup.
Il faut noter quelque part, bon ben, au 1er janvier, j'ai mis telle liste qui est valable jusqu'au 31 décembre. Et il faut le garder cette liste jusqu'au 31 décembre et t'assurer que même le 25 décembre, il y a encore au moins un tiers de certificat de la liste qui soit dans la liste de certificats de ton site. Et donc ça demande beaucoup de rigueur.
Ouais. Et Dane, c'est un peu plus flexible parce que j'imagine que ça s'appuie sur le time to live du DNS. Donc là, ça peut être beaucoup plus court. Et ça s'appuie sur la sécurité de DNSSEC pour vérifier que ça n'a pas été abusé.
Voilà, et donc là, même si le time to live est extrêmement court, ça fonctionne toujours. Tu vas juste réinterroger le DNS et il te donnera la nouvelle liste. Et donc, faut juste faire attention pendant la journée où tu es en train de changer de certificat, mais tu es sûr que, au pire, si jamais tu as fait une erreur, dans quelques heures, c'est rétabli pour tous tes clients. Alors qu'avec ce header, si tu l'as mis pour une semaine et tu as fait une erreur, si jamais un client s'est connecté au moment où tu proposais la liste fausse, c'est perdu.
D'accord. Sinon, aucun rapport, mais il y a un certificat, ça coûte un peu d'argent, puisqu'il faut aller voir l'autorité de certification, et en fonction des classes, donc ça coûte plus ou moins cher. Il y en a quelques-unes qui sont vraiment pas chères, notamment celles que les cascodeurs utilisent, là, Startcom, tout simplement parce qu'ils démarrent à zéro, donc ça c'est pas mal comme prix. Alors moi, vu que j'ai fait la classe 2, puisqu'ils ont vérifié mon identité, etc., c'était plus cher, je crois $60 ou un truc comme ça. Mais il y a une autre initiative qui s'appelle Let's Encrypt, qui veut fournir ces domaines, ces certificats pas chers pour ces certificats simples pour gratuits et surtout aider à automatiser la mise en place de ces certificats. Est-ce que tu veux en parler? Est-ce que tu peux en parler?
Oui. Pour revenir rapidement sur Startcom, en fait, Startcom automatise déjà comme beaucoup d'autorités de certification parce que pour vérifier que tu possèdes le site internet, il n'y a pas besoin d'intervention humaine. C'est juste interroger un DNS, envoyer un email avec un code et vérifier que la personne est capable de redonner le même code. Donc ça demande zéro intervention humaine. Et donc, a priori, ça ne demande aucun coût. Bon. Startcom donc, propose des certificats gratuits avec un bémol, c'est-à-dire qu'au moment de révoquer son certificat, si jamais on a un souci, c'est là qu'il faut payer. Donc, certaines personnes trouvent ça inadmissible. Startcom le justifie par le fait qu'effectivement, pour révoquer un certificat, là, il faut une intervention humaine, et donc ça coûte de l'argent. Et d'autres personnes considèrent que la gestion des certificats, c'est censé être quelque chose d'automatique et... il n'y a pas de raison de devoir payer pour juste vérifier que tu possèdes le domaine, puisque tu as déjà payé pour le domaine et que tu es capable de prouver via le DNS que tu le possèdes. Il y a d'autres autorités de certification qui font quand même des certificats gratuits. Il y en a certaines qui en font des gratuits pour les projets open source. Il y a une autorité chinoise qui s'appelle WuSign qui propose des certificats gratuits aussi et sans frais de résiliation de mémoire. Et au milieu de tout ça...
Juste, si tu te demandes ta clé privée, mais c'est rien, c'est pas... Non, je t'éconne.
Non, sérieusement, j'ai fait un certificat avec cette autorité. L'avantage des autorités de certification, c'est qu'il ne faut pas leur faire confiance. Il faut juste que les clients qui le visitent leur fassent confiance. J'expliquerai ça par la suite, dans la partie comment générer un certificat. Mais globalement, tu n'as pas besoin de faire confiance à l'autorité, tu n'as pas besoin de leur donner ta clé. Il faut juste leur donner ta clé publique et prouver que tu es capable de signer avec ta clé publique. Et là, ils te délivrent un certificat. Et WuSign, en fait, sa particularité, c'est qu'elle a été signée par Startcom. C'est-à-dire que comment une nouvelle autorité de certification, je fais une légère digression, comment une nouvelle autorité de certification rentre dans la danse, donc en attendant que tous les navigateurs la reconnaissent, ils demandent simplement à une autre autorité de certification de leur signer leur certificat. Ce qui fait que si jamais ils sont pas reconnus par le navigateur, ils doivent toujours présenter le certificat d'au-dessus qui, lui, sera reconnu.
Donc, en fait, Starcom leur a donné un certificat intermédiaire qui leur permet de créer des certificats. C'est ça que tu es en train de dire?
Voilà. Et donc, okay. Ton navigateur, soit il connaît WooSign, et dans ce cas-là, il considère que c'est pas un certificat intermédiaire, c'est juste un certificat standard. Soit il ne connaît pas WooSign, il considère que c'est juste un certificat intermédiaire signé par Starcom, qui est un certificat normal, et donc il lui fait confiance.
D'accord.
Et donc, pour revenir à Let's Encrypt, et donc, c'est une initiative notamment de l'Electronic Frontier Foundation, de, je crois qu'il y a Mozilla dedans et d'autres grands acteurs,
ouais,
qui veulent faire une autorité de certification complètement automatisée. C'est-à-dire juste tu écris une ligne de commande sur ton serveur et ça te signe ton certificat, ça le renouvelle. Tu n'as plus à passer du temps à générer une clé, aller sur la page du site internet, voir tes mails, enfin, toutes ces étapes où à chaque fois tu recherches sur Google comment on fait déjà cette étape, j'ai oublié la commande OpenSSL. Et donc, ils veulent faire une autorité complètement automatisée et complètement gratuite.
Ouais. Par contre, donc non seulement c'est une autorité, mais il y a un protocole en fait. Il y a un protocole d'interaction pour dire bah, j'ai besoin d'un nouveau certificat, est-ce que tu es bien toi? Oui, je suis bien moi. Tiens, voilà le certificat, ok, et les, pareil pour le renouvellement en fait. C'est voilà. Aussi un des trucs qui est différent des autres gratuites, entre guillemets.
C'était un des points qui bloquait l'arrivée du SSL TLS sur les petits sites comme les blogs. C'est que beaucoup de gens ne voulaient pas faire confiance à une Certificate Authority qui demandait de l'argent en cas de révocation ou qui était d'une nationalité étrange. Par exemple, chinoise, c'est, je sais pas, pour quelqu'un qui est en Chine, c'est parfaitement normal. Pour quelqu'un qui est en Amérique, il peut faire un peu moins confiance. De même, l'autorité de certification Startcom, elle est israélienne, donc je pense que dans certains pays, ça doit aussi leur poser des problèmes. Et voilà, donc, il faut savoir que quand on fait confiance à une autorité de certification, derrière, elle est soumise à son gouvernement. De même que quand j'achète un site en .fr, je sais que si jamais le gouvernement français veut le saisir sur une décision de justice, il peut. Je sais que le gouvernement chinois, s'il souhaite saisir mon site en .fr, il ne peut pas. Donc il y a ce problème de territorialité et des juridictions auxquelles il faut faire attention. Et donc, voilà, pour casser toutes ces barrières, Let's Encrypt a choisi de proposer des certificats de façon vraiment accessible pour tout le monde.
Et je pense mais que sous autorité américaine, puisque ça serait une, c'est une association en Californie.
Voilà.
Donc après, les Chinois, ils sont peut-être pas contents. Voilà, bref. Tout est affaire de où est-ce qu'on estime que nous, on a notre confiance, en fait.
Voilà. Sachant qu'encore une fois, il n'y a pas besoin de faire confiance à l'autorité de certification. Il faut juste espérer qu'elle nous soit toujours capable de nous donner un certificat dans le futur.
Ouais. Alors, il y a eu quelques questions d'auditeurs, on va les passer rapidement parce que le temps passe vite. Comment est-ce que les vendeurs de navigateurs choisissent des autorités de certification qu'ils supportent nativement? Est-ce que c'est la jungle ou il y a une procédure standard? Alors, c'est un petit peu la jungle, chacun fait un peu comme il veut, mais en tout cas, donc au début, Mozilla faisait comme il voulait, ensuite ils ont mis en place des critères un peu plus absolus qui permettent de dire on accepte une autorité ou on n'accepte pas une autorité. Il y a un forum ou une association des autorités de certification dans lequel il y a non seulement les autorités de certification, en tout cas les grosses, mais aussi les grands navigateurs pour qu'ils discutent voilà, de ce genre de choses. Et c'est vrai aussi de, par exemple, Debian, qui est donc comme un système d'exploitation, fait aussi des allers-retours sécurisés, a aussi une liste d'autorités de certification qui le reconnaît. Pareil, il y a aussi des procédures un petit peu bien définies avec des règles. Ouais. Et je pense que c'est le cas pour à peu près tous les navigateurs connus en tout cas.
Je pense qu'on peut parler un peu de CACERT. C'était, on va dire, l'équivalent de Let's Encrypt, mais version plus associative. C'était une autorité de certification qui souhaitait délivrer des certificats gratuits, comme le faisait Let's Encrypt, pour tous les petits sites internet qui n'ont pas besoin des garanties ou qui ne souhaitent pas prouver leur identité parce qu'ils estiment que ce n'est pas nécessaire. Et Donc cette organisation avait essayé de devenir une certificate authority et malheureusement ils avaient réussi à être intégrés dans, je crois que c'était le sort, le dans Debian, je crois que ça avait réussi à être intégrés, mais ils ont été retirés par la suite, n'ont pas réussi à aller chez Mozilla parce qu'ils n'arrivaient pas à respecter toutes les procédures. Donc effectivement, chacun fait un peu comme il veut et propose les procédures qu'il le souhaite, sachant qu'une nouvelle autorité peut toujours contourner ces procédures en demandant d'être signée par une autorité au-dessus d'elle.
Ouais, mais est-ce qu'elle, du coup, elle prend la responsabilité que l'autre... Parce que si, donc là, si l'autorité chinoise fout la zouille, Startcom, ils vont perdre, possiblement perdre leur autorisation, non?
Puisque... Ça dépend vraiment de la décision du navigateur. Ils peuvent juste perdre leur certificat ouais. intermédiaire ou leur certificat racine. En fait, il faut savoir, d'accord. on a parlé beaucoup de certificats intermédiaires, mais sans décrire ce que c'est. En fait, les autorités de certification sont les certificats racines qui sont dans le navigateur. Et ces certificats-là, ils sont dans un coffre bien rangé et il faut jamais les sortir. Parce que si jamais ils se font voler ce certificat-là, juste, ils perdent tout leur business. Ils ne peuvent plus rien signer. Et si jamais ce certificat est corrompu, c'est ce certificat-là qui sera retiré des magasins des navigateurs et donc juste ils n'ont plus de business. Et tous les gens qui avaient signé avec ce certificat-là n'ont plus de certificat valide. Et donc ce qu'ils font, c'est qu'avec ce certificat racine, ils signent des certificats intermédiaires qui eux ont des durées de vie plus courtes. De mémoire, le racine ça peut aller jusqu'à 20 ans, et les intermédiaires ils font des intermédiaires de 10 ans. Et donc, ce certificat intermédiaire, c'est celui qu'ils utilisent pour signer les sous-certificats. Et donc, en cas de problème, en cas de vol d'un certificat ou en cas de génération d'un certificat involontaire, juste, ils disent que le certificat intermédiaire est révoqué et ils génèrent de nouveaux certificats intermédiaires, ce qui leur permet juste de continuer à signer pour des nouveaux clients tout en étant reconnus par les navigateurs.
D'accord. Sinon, il y avait une autre question, c'est pourquoi n'existe-t-il pas des autorités de certification publique? Et en l'occurrence, elles existent. Il y en a, donc il y en a une en France. Je pense qu'ils ont réussi à la garder puisqu'ils ont fait amende honorable. On parlait du problème de qui avait eu là de certificat intermédiaire qui avait été mis sur une machine SSL. Aux États-Unis, il y en a plusieurs. Je crois que le département de la défense en a un, voire deux. La Chine, pareil. Ou Hong Kong, en tout cas. Voilà, il y a le Hong Kong Post Office. On se doute bien que c'est pas exactement privé. Voilà, donc ça existe, des autorités de certification étatiques ou para-étatiques, puisque d'une de leurs agences, donc il n'y a pas de souci pour les États.
Oui, ça paraît raisonnable.
Eux, ils ne demandent pas. Eux, ils ne délivrent pas de certificat. Enfin, je ne connais pas le département de la défense, il n'y a pas un site web où je peux demander un certificat signé par le DOD, quoi.
Non, c'est un peu comme le certificat Google, où ils généraient des certificats pour leur site à eux. Donc du coup, le gouvernement français, lui, peut générer des sites pour le gouv.fr, pour le site d'impôt, pour etc. Ça leur permet d'avoir une autorité sous leur contrôle pour gérer leur site.
Ok.
Ça leur empêche pas pourtant d'avoir pas mal de soucis. Généralement, sur le gouv.fr, c'est régulièrement qu'on voit passer des certificats pas à jour ou des certificats qui vont pas. C'est assez régulier, malheureusement.
Ouais, ils sont souvent obsolètes. Ouais. Ouais, ou alors, oui, si c'est le sous-domaine,
ça ouais, c'est pas, ça. Ah, mais c'est, la bonne personne ni rien. Donc, ils ont quand même pas mal de soucis.
Non, mais c'est bon, parce que là, ils vont écouter ce podcast et après, ça ira bien.
On le souhaite.
Ouais. Non, mais c'est difficile, reconnaître. Moi, j'ai démarré assez récemment, mais c'est une jungle. Il y a plein de trucs à connaître, quoi. Donc, c'est vrai qu'un truc qui synthétise, c'est pas mal.
C'est clair.
Comme l'épisode HTTPS est devenu un gros morceau, on a décidé de le couper en deux. Dans la deuxième partie, vous apprendrez comment demander un certificat, comment l'installer, les bonnes pratiques, les boulons à serrer, ce genre de choses. Le thème musical est le thème numéro 3, gracieusement offert par podcastthème.com, podcastthemes.com. Le logo a été dessiné par Nicolas Martignol, alias le Touilleur Express, www.touilleur-express.fr.